France Musique.
Le casque et l'enclume. Bonjour à tous et bienvenue dans votre séance critique du vendredi. Le casque et l'enclume, nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour parler de quelques disques signés Nelson Frère, Christian Tillman, Mathias Goerne, Christophe Rousset ou Raphaël Pichon. Il y aura aussi en fin de programme des coups de cœur amenés par nos invités du jour. J'ai nommé, et pour être complet, Emmanuel Giuliani de La Croix, Antoine Péqueur de Mezzo et Christian Merlin du Figaro. Il est midi une, le casque commence par un bon Brahms à la Germaine. Les premières mesures de la quatrième symphonie de Johannes Brahms, c'était Christian Tillmann qui dirigeait ici la Staatskapelle de Dresde, d'un coffret qui nous arrive chez Deutsche Grammophon, les quatre symphonies de Brahms en CD avec quelques ouvertures qui passent, et puis des reprises en DVD de concertos qu'on a déjà vus avec Pollini, Elisabeth Yachvili, enfin déjà entendu, coffret tout Brahms par Christian Tillmann. Qu'en a-t-il pensé Antoine Pecker?
Alors tout d'abord, moi je me réjouis quand j'entends un tel disque, une telle intégrale, parce qu'aujourd'hui on voit tellement de chefs d'orchestre qui se contentent de lecture de ces symphonies de Brahms avec une seule nuance, un mezzo forte, du début à la fin, à peine deux répétitions, le concert, et on est comme ça dans quelque chose peut-être purement productiviste de ces symphonies de Brahms. Et là, c'est une version personnelle que propose Christian Tillmann, personnelle dans le choix des tempi. Alors souvent des tempi plutôt lents, mais avec des moments d'une lenteur magique. Je pense par exemple au début du final de la première symphonie. Beaucoup de legato, alors ça sonne très large, ouais. Bright, comme diraient nos amis d'Outre-Rhin. C'est Feierlich également, pour employer peut-être un autre mot. Et je crois que les mots germaniques correspondent très bien à la démarche de Tillmann. Alors bien sûr, ce qui est vraiment passionnant dans sa lecture, c'est qu'il prend l'orchestre par le grave, par les basses. Et ça, c'est vraiment dans l'écriture même de Brahms. Par contre, ce qui m'a un petit peu peut-être déçu, d'autant que je suis bassoniste, c'est que Tillmann s'intéresse plus aux cordes qu'aux instruments avant. Ça, c'est une évidence. Et puis, plus globalement, sa lecture est sans doute plus mélodique qu'harmonique. Et ça, je pense que peut-être une lecture autre de Brahms qui est très pertinente, c'est celle par les interprètes qui ont fait du Bach. Parce qu'il y a une grande proximité entre ces compositeurs. Et je pense notamment à un Gardiner, par exemple, qui peut apporter des choses parce qu'il y a des dissonances, une harmonie très riche que nous révèle pas tellement Tillmann. Tillmann est dans la mélodie, une mélodie parfois voilà, très large, emphatique, diront certains, mais une version que j'ai trouvée passionnante et très personnelle.
Je disais germaine en pensant germanique tout à l'heure, c'est bien de ça qu'il s'agit, vous me le confirmez. Emmanuel Giuliani qui fait une tête.
Oui. Heureusement qu'on est à la radio.
Avec la bouche pincée.
J'essaye de ne pas quand même. Non, je trouve très, très, très intéressant ce que vient dire Antoine. Moi, à vrai dire, comme auditrice, je n'ai pas du tout ressenti cette impression. J'ai écouté les symphonies dans l'ordre des numéros. Et dès la première, je me suis dit, mon Dieu, il y a quatre CD. Il va falloir, pour être un peu vulgaire, que je m'appuie tout ça. J'ai trouvé que dès le début, alors la musique avec des sonorités d'orchestre somptueuses, en effet, comme Antoine l'a souligné, des cordes absolument magnifiques. Mais j'ai l'impression qu'un bloc est tombé à mes pieds et qu'il n'en est jamais parti. Donc ça manque de mouvement, d'élan, de lignes. Vous avez évoqué Gardiner. En effet, tout ce que Gardiner faisait ressortir comme petit courant sous-jacent, comme point et contrepoint, comme question et réponse, là, on n'a que des réponses et des grosses réponses assénées. Et à vrai dire, moi, je n'ai pas du tout fonctionné. J'ai un peu retrouvé les impressions que j'avais en concert quand Christoph Eschenbach les dirigeait. La précision, évidemment, et la beauté sonore en plus, mais ces espèces de gros blocs et ça n'avance pas, il n'y a pas ce flux, ce reflux.
Enfin, mais Emmanuel.
Oui, mais le rubato, quand on fait du rubato déjà sur un mouvement immobile, on ralentit l'immobilité.
C'est vrai que ça veut chercher la grandeur et ça arrive juste de temps en temps à s'essouffler, quoi. C'est la sensation que j'ai eu parfois aussi. Christian Merlin.
J'adore ça, moi, suivre les débats des deux autres et d'Emmanuel. Alors, un peu de synthèse.
Non, ça marche pas bien la synthèse aujourd'hui. Soyez pas hollandiste ce matin.
C'est intéressant, j'adore ça, moi, la synthèse. Non, c'est un Brahms très allemand, il n'y a pas à dire. Tillmann, en étant nommé à Dresde, c'était un symbole. C'est quand même une nomination à enjeu. L'orchestre le plus ancien d'Allemagne qui recrute un chef qui revendique la grande tradition germanique. Ça faisait sens. Il y a des répertoires dans lesquels ça me captive absolument. Je pense à Wagner, je pense à Bruckner, je pense à Richard Strauss. J'avoue que je suis moins convaincu par Brahms. J'étais prêt à y aller. J'étais vraiment prêt à adhérer, à le suivre dans son projet. Et au début, j'ai marché. Et puis, presque dans chaque symphonie, il y a un moment où on décroche. Moi, ce qui me manque le plus, c'est la tension continue. Alors, Antoine est dans le germanisme aujourd'hui. Allons-y. C'est ce que les Allemands appellent le große Bogen, le grand arc, ou la grande arche. Mmh. C'est le même mot pour les deux. Tendu d'un bout à l'autre d'un mouvement. Ici, ça fluctue trop et il y a des chutes de tension qui, pour pour moi sont rédhibitoires dans Brahms. Donc ça fait un très beau Brahms, un très beau son d'orchestre, une vision qui a de la grandeur et de la majesté, mais qui peine, moi je trouve, à nous emmener quelque part. Et surtout, j'ajoute un petit mot, ce qui me frappe, c'est que je ne retrouve pas ce défaut dans les concertos, très curieusement, parce que les accompagnements de concertos, que ce soit pour Pollini ou pour Batiashvili, sont très vivants au contraire, et ont une véritable trajectoire et une sorte de vitalité qui me manque un tout petit peu dans les symphonies.
Antoine.
Pour moi, je vois ce que tu veux dire, hein, évidemment, Christian, mais je pense que par ce travail que Christian Tillmann fait avec cet orchestre de la Staatskapelle, c'est effectivement un travail plutôt conservateur sur l'orchestre et sur ce grand répertoire romantique allemand.
Voire réactionnaire.
Voire réactionnaire, diront certains, notamment Serge Dorny. On sait qu'il y a eu certaines tensions entre Christian Tillmann et Serge Dorny, puisque Tillmann a fait virer, on peut dire, Serge Dorny de Dresde, de l'opéra. Mais il y a dans cette approche presque, je dirais, historique d'une certaine histoire. Tillmann s'inscrit dans la ligne des Furtwängler de ce type de chef d'orchestre.
Mais Furtwängler, il y avait du mouvement, il y avait de la vie.
Il y avait du souffle.
Quitte à ce que ça déstabilise même un peu l'écriture musicale, l'exactitude. Moi, ça m'ennuie qu'on dise allemand égale lourd, immobile, gros truc traditionnel et sans vie.
Non, mais on reprend cet exemple. Non, mais Emmanuel, le début du final de la première symphonie. Après l'introduction lente, on arrive sur ce thème. Certains disaient une proximité de ce thème avec la 9e symphonie de Beethoven. Et ce thème, il le fait dans une nuance pianissimo, un tempo effectivement très lent, quelque chose que moi, je n'avais jamais entendu.
C'est vrai, mais il peine à le faire évoluer après.
Après, c'est un point culminant. Voilà, jusqu'à la coda, notamment. Mais il y a ce moment où il y a quand même une expression. Et surtout, c'est enfin quelque chose de personnel. Moi, j'en peux plus d'entendre ces symphonies avec une seule nuance du début à la fin.
Elle n'en peut plus de les entendre allemand, les symphonies de Brahms. Tillmann, Brahms, la Staatskapelle de Dresde, c'est chez Deutsche Grammophon. Vous aurez compris que les avis sont partagés. Sur la suite, ça ne va pas être partagé. Sauf Christian qui ne dira rien parce qu'il n'a pas eu lui encore, malheureusement, le disque. Mais je suis sûr
mais j'en parlerai quand même.
Ah oui, ça alors,
pas, je ne m'arrête pas à ce genre de scrupules.
Imdorf au village, le 17e lit de Winterheise, le... Qu'est-ce que j'allais dire, moi, le voyage d'hiver, le chant du cygne, n'importe quoi. Le voyage d'hiver, bien sûr, de Franz Schubert, Matthias Goerne, baryton, Christoph Eschenbach. Justement, puisqu'on en parlait, était ici au piano. C'est la suite du parcours schubertien de Matthias Goerne pour Harmonia Mundi. Et ce Winterheise vient juste de paraître, Emmanuel Giuliani.
Je crois que c'est la suite et peut-être même la fin de, de ce parcours. Je me demande.
Ah, je ne sais pas.
Ce sera à vérifier, en tous les cas, de cet immense projet Schubert, avec différents pianistes, donc, à mener le baryton allemand.
Ouais.
Voilà, pour Harmonia Mundi. Alors, bien sûr, voyage d'hiver, Matthias Goerne, Christoph Eschenbach, des expériences de concert, quand on a eu la chance de pouvoir les entendre. Tout de suite, la pochette dit que ça va être magnifique. Et en effet, ça l'est sur bien des points, même si j'ai une ou deux petites réserves. Ouais. Alors, l'inspiration, l'intelligence, la clarté, à la fois l'émotion du texte, vraiment tout y est.
L'intrication du piano et du chant,
absolument,
c'est incroyable.
On voit que ce sont des complices, aussi bien quand Eschenbach était chef et chef d'orchestre qu'au piano. Donc, on sent vraiment que ces deux-là font la paire et qu'il y a une camaraderie, une complicité musicale et humaine très forte. À la limite, peut-être, mais ça, je me demande si ce n'est pas une des questions qu'on peut se poser à propos de Matthias Goerne actuellement. Il pousse son art tellement loin qu'il en vient parfois à se caricaturer un petit peu lui-même et à pousser sa sophistication au-delà de cette frontière très ténue, de ce fil entre la perfection et un peu trop. Et le mieux est l'ennemi du bien, je trouve, à certains moments.
Le défaut du Trichard d'Escao reviendrait encore, lui
dans
aussi,
des
un
ruptures
peu.
De tempo. C'est ouais. Par exemple très, très sensible dès la deuxième des mélodies, dès le deuxième des leaders. Et puis des effets de legato admirables, mais qui, voilà, parfois je trouve c'est un petit peu trop chargé. Et de même, il y a l'aigu, notamment l'aigu forté de Matthias Goerne n'est plus tout à fait ce qu'il a été. Donc il est obligé de compenser magnifiquement par des astuces techniques, mais ça se sent un peu, donc voilà.
Vous avez quelques réserves, vous m'étonnez quand même.
Quelques
Antoine
petites réserves.
Ouais, peut-être, oui, Antoine.
Moi, ce que je trouve ce qui est remarquable avec Matthias Goerne, c'est qu'il arrive à trouver dans ce répertoire un compromis entre une voix lyrique et de l'autre côté, vraiment cette voix dans l'intelligence du texte, propre à l'exercice des leaders. Un compromis qui, pour moi, correspond très bien à la musique de Schubert et qu'on peut faire un parallèle même avec le monde pictural. Et je pense notamment à un grand peintre allemand, toujours en vie, Gerhard Richter, qui est aussi toujours entre l'abstraction et la figuration, avec des procédés de flou. Et on est finalement dans quelque chose d'assez semblable, c'est-à-dire qu'on bascule à un moment d'une voix lyrique presque opératique, à des moments dans le phrasé, dans l'articulation, à des moments, un sens, un mot que Goerne veut faire ressortir de la même manière qu'on peut apercevoir dans une toile de Richter, d'un seul coup, un détail évidemment figuratif qui nous rappelle, qui nous ramène à une notion de l'Allemagne aussi, quelque chose de très forte et toutes ces forêts dans lesquelles on plonge avec Schubert ou avec Richter. Après, personnellement, j'aurais quand même dans ce répertoire schubertien, aujourd'hui peut-être plus tendance à aller vers un Jan Bostwich, qui est plus fantomatique, qui nous amène dans des univers peut-être encore plus habités, et peut-être c'est plus Hansen Kiefer à ce moment-là, donc il faudrait rapprocher Jan Bostwich, mais ou alors une autre version peut-être de Matthias Goerne, c'était en 2004, 10 ans avant, une version avec Alfred Brendel. Ouais. Exactement. Un autre univers sonore, et notamment au niveau de la partie de piano, j'avoue une petite préférence pour la partie d'Alfred Brendel, peut-être moins verticale qu'Eschenbach.
Christian n'a pas entendu ce disque, mais vous les connaissez bien tous les deux.
Oh oui, parce que je les ai souvent entendus. J'ai entendu peut-être 5 ou 6 fois le voyage d'hiver par Matthias Goerne en concert, dont 2 ou 3 avec Christoph Eschenbach. Donc je ne peux me prononcer que sur des expériences de concert, pas sur le disque. Tout ce que je sais, c'est que je suis extrêmement impatient d'entendre le disque, parce qu'au concert, c'est à chaque fois une émotion absolument incroyable et unique, et une complicité inouïe entre les deux hommes, et moi qui ai pu être si sévère et si dur avec Christoph Eschenbach comme chef d'orchestre, je suis béat d'admiration devant la sensibilité du pianiste, les couleurs qu'il va chercher dans son piano, et l'écoute qu'il a, l'écoute absolue qu'il a du chant.
Et le fait qu'il ne recule pas devant être pianiste véritablement face à un chanteur qu'il a en face de lui, c'est ce qu'on entend vraiment, je trouve, dans
ce que veut Goerne. Quand on interroge interroge Mathias Goerne sur sa conception de l'accompagnement, il dit toujours « je veux un pianiste qui soit soliste, je veux un partenaire à parts égales, je veux pas un accompagnateur ». Et là, ils échangent des idées entre eux et l'un inspire l'autre, c'est absolument fascinant. Juste peut-être une petite anecdote, il n'y a pas que moi qui ai pu être sévère avec Eschenbach comme chef, les musiciens de l'orchestre l'étaient aussi. Et un jour, à une pause de répétition à l'orchestre de Paris, au moment où tout le monde va à la machine à café ou sortir fumer une cigarette, Eschenbach s'est mis dans son coin et s'est mis à jouer pour lui du piano. Un contrebassiste l'a entendu et il est allé au culot, il est allé le voir, il lui a dit « mais pourquoi quand vous dirigez, c'est pas comme ça ?» C'est terrible comme phrase. Mais c'était sincère et Eschenbach n'en a même pas été blessé. Il lui a dit « mais vous savez, la direction d'orchestre, c'est quelque chose de très compliqué, c'est autre chose. » Donc là, on a la musique à l'état pur. Goerne, je conçois qu'il puisse susciter des réserves parce que c'est très particulier comme style et comme art. Il y a des choses qu'on peut ne pas aimer dans son utilisation de la voix, effectivement, dans un certain expressionniste qui peut parfois être à la limite de l'artifice. Mais en même temps, il nous emmène toujours tellement dans des paysages, enfin dans des contrées absolument inconnues que je trouve on n'en ressort jamais tout à fait indemne.
Ouais, je trouve d'ailleurs vous êtes un petit peu dur avec ce voyage d'hiver que moi j'ai trouvé absolument magnifique. Mais écoutez, c'est comme ça. Ils ont eu des réserves dessus, vous l'aurez compris.
Globalement, c'est globalement. Mais je me demande s'il ne se statutifie pas un tout petit peu.
C'est une tentation pour beaucoup d'artistes.
Bien sûr,
mais si
on
a tellement commenté les disques de Jonas Kaufmann, par exemple, dont Emmanuel est une inconditionnelle, mais chaque fois on a quand même dit attention, il a une tendance à accentuer certains effets Kaufmann qui deviennent de l'imitation de soi-même.
Être au maximum de lui-même quelque part, mais bon, mais c'est ce qu'on lui demande aussi. Le Winterreise de Franz Schubert par Mathias Goerne et Christophe Eschenbach, c'est chez Harmonia Mundi. La suite, c'est pour Lully. Christophe Rousset nous a fait un parcours depuis quelques années, passant en concert par Beaune. Je crois que vous l'avez vu quelques fois là-bas aussi, les uns et les autres. Hein. Et puis, passant par le disque, il y a eu Bellérophon, il y a eu Phaéton. Voici Amadis.
Oh,
C'était en live donc cette Amadis de Jean-Baptiste Lully dont on entendait ici les dernières mesures de la grande chaconne avec chœur final, presque un quart d'heure de chaconne magnifique refermant cet opéra. Les talents lyriques, le chœur de chambre de Namur dirigé par Christophe Rousset, le disque vient de paraître chez Aparté. Je vous signale que si on vous fait entendre les extraits avant, c'est pour que vous fassiez une idée aussi avant que les critiques arrivent derrière, éventuellement commentiez, puisque je vous rappelle que le casque et l'enclume est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et puis bien sûr sur le site de France Musique. N'hésitez pas à nous donner votre avis et à réagir. Comment est-ce qu'elle a réagi, Emmanuel Giuliani, à cet Amadis de Christophe Rousset?
Mais j'ai plutôt bien réagi.
Ah,
et
quand
même. Oui, ça va.
Oui, parce que là, depuis le début de l'émission,
non,
dites.
Mais non, mais
ah, non, non, mais...
Et alors, ce que j'ai envie de conseiller aux auditeurs, parce que ça a été ma propre démarche, c'est de ne pas se décourager après le premier quart d'heure, les premières 20 minutes. Parce que c'est vrai que l'ouvrage commence, j'allais dire, c'est de la faute de Lully, et la faute du genre, évidemment, de la tragédie lyrique, commence de manière un peu hostile, avec un enchaînement de récitatifs qui ne sont peut-être pas les plus inspirés du monde. Et on se dit, oulala, est-ce que ça va être autant que ça une partie de plaisir? Il faut, comme les premières pages d'un livre qui met un peu de temps à démarrer, il faut vraiment se plonger dans l'écoute parce que c'est de plus en plus beau. Et il y a des moments d'une beauté absolument ineffable. La fin du deuxième acte, c'est une des plus belles choses que l'on puisse entendre en musique française baroque. Vraiment, c'est absolument splendide. C'est très bien d'avoir là entendu le chœur de Namur parce que c'est vraiment un des grands atouts de ce disque, un chœur qui intervient à plusieurs reprises dans des personnages et des configurations tout à fait différentes de captifs, de démons, de nymphes, de bergers, de vrais, de faux bergers, etc. Et tout cela donne vraiment une très belle couleur. La direction de Christophe Rousset aussi devient à la fois plus dramatique et plus souple au fur et à mesure de l'ouvrage. Vocalement, tout n'est pas merveilleux à 100%. On peut trouver que le timbre d'Ingrid Perruche est un peu dur, un peu grinçant, un vibrato, mais une incarnation tellement belle qu'après tout, une enchanteresse, elle est plus sur le versant de la sorcière que de l'enchanteresse magnétique, mais elle a une telle incarnation que c'est splendide. Cyril Ovity, c'est toujours, mais cette intelligence, mais tous les mots. Je dirais, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de Mathias Gurneuil, il y a un art, une intelligence de la diction, mais c'est jamais trop, ça reste d'un naturel absolu. C'est vraiment merveilleux. Donc je trouve que c'est un disque qui a beaucoup d'atouts et les petits rôles sont très très bien tenus. Et notamment, on vient d'entendre, je crois, parmi les voix, celle de Asna Benani, une jeune chanteuse marocaine, une jeune soprano que j'ai eu l'occasion d'entendre avant-hier avec l'ensemble Le Palais Royal, dans du Campra, de la Lande et du Rameau, et une jeune chanteuse à suivre. Très belle voix, très belle incarnation.
Christian Merlin.
Oui, pas grand-chose à ajouter, parce que je vais vous dire une chose. Lully, souvent, ça me barbe un peu. Il faut quand même être honnête.
Et, vous n'êtes pas le seul.
Et là, voilà. Et là, on a un opéra qu'on découvre pour une large part, hein, et qui est absolument captivant, y compris dramatiquement, parce que c'est parfois ça qui me manque un peu, dans l'art de nouer des situations et de créer une tension dramatique. Et là, il y a notamment des rôles de méchants qui sont tout à fait fascinants. Il y a le couple noir et Ingrid Perruche, c'est vrai, a quelque chose de vénéneux dans sa manière d'aborder ce rôle. On peut trouver éventuellement que c'est un peu outré par rapport au souci de beau chant et de bien dire, mais en même temps, c'est tellement théâtral et tellement, tellement captivant.
Il faut dire que l'incarnation c'est... sur place, je veux dire en version concert à Beaune, par exemple, que j'ai vu moi, était
Ah ben, je veux bien le croire, parce qu'il en passe quelque chose.
Ah oui.
Ça passe par le micro. Et puis, il y a cet art de Christophe Rousset que j'ai parfois trouvé un petit peu trop sage ou un petit peu trop lisse dans son élégance classique. On sent qu'il a un tel amour du mot qu'il dirige au moins autant Lully que Kino, en fait. Il met en valeur le mot. Alors, parfois, ce qui peut se passer, c'est que dans certains passages purement orchestraux, à mon tour d'avoir au moins une mini-réserve après tous ces éloges, dans des passages purement orchestraux, je pense à la chaconne de la fin, par exemple, il me semble que ça pourrait être plus flamboyant. Bon, voilà. Mais ça reste une réalisation d'une immense qualité.
Antoine Pecker.
Pour moi, par rapport à Christophe Rousset, on pourrait peut-être faire un parallèle avec Christophe Eschenbach, un autre Christophe. Christophe Eschenbach,
c'est-à-dire. Il est omniprésent aujourd'hui.
En fait, c'est une spéciale Christophe
Eschenbach.
C'est ça,
oui, on ne l'avait pas dit.
On ne le savait pas nous-mêmes. On ne le savait pas, mais voilà.
Non, Christophe Rousset, fantastique claveciniste. C'est une intelligence au clavecin. Alors, évidemment, avec l'orchestre, il a cette intelligence du texte, la rhétorique, l'ornementation, les inégalités propres à la musique baroque française. Il sait restituer ça de manière très intelligente. Mais par contre, pour faire sonner littéralement l'orchestre. C'est là où peut-être le claveciniste qu'il est reste trop claveciniste et c'est un son souvent trop sec. C'est l'exemple que donne Christian est très bon. Dans la chaconne, par exemple, on a envie d'une chaleur, de quelque chose de presque méditerranéen, comme le fait par exemple un Jordi Sabal dans la musique de Lully, où il faut oser. Et là, on reste sur quelque chose de très poli, mais je pense que cette musique de Lully, aussi bien restituée soit-elle d'un point de vue urtex, pour reprendre encore un terme allemand dans cette émission, il n'empêche qu'on pourrait aller vers plus de folie, un côté presque, parce que cet ouvrage peut faire penser à du Rameau sur certains aspects, notamment dramatiques. Et je pense qu'on pourrait révéler plus de modernité dans cette partition. Mais il n'empêche que c'est un disque, globalement, et notamment en matière de distribution, très équilibré. D'ailleurs, je crois que l'équilibre, c'est quelque chose qui tient beaucoup à Christophe Rousset.
Et puis tout de même, Rousset fait quelques Lully qui sont admirables. C'est
temps,
le travail qu'il est
en
train de faire là.
Alors, il a un sens de l'élégie. On parlait du final du deuxième acte ou d'autres passages. Vraiment, dès que... C'est vrai, sur la véhémence, là, je vous rejoins, Antoine. On se dit... Puisqu'il y a toutes ces qualités, allons-y. En revanche, donc, tout ce qui est rêveur et élégiaque, là, je trouve que c'est d'une poésie mais merveilleuse.
Et par exemple, ça va quand même un cran plus loin que quelqu'un qui fait un très beau cycle Lully aussi, qui est Hugo Rehn, et qui a été pionnier notamment pour Amadis. Mais là, on va au-delà en termes de distribution, bien sûr, mais aussi de vision quand même.
Et de musicien. Mais sans doute, cette peur, peut-être, comme il est claveciniste, c'est une peur peut-être du legato. Et voilà, plus d'être une articulation très définie, mais qui manque de chair.
C'est donc Amadis de Jean-Baptiste Lully par les talents lyriques et Christophe Rousset, un coffret de trois disques qui paraît chez Aparté.
France Musique.
Un autre chef baroque, mais plus jeune, celui-là, Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion. Il était dans le magazine il y a quelques jours à peine pour parler de ses musiques funèbres de Jean-Sébastien Bach. Les voici.
Thank you.
Nous avons un Dieu et un seul, nous dit cette musique funèbre pour le prince Léopold. C'était Jean-Sébastien Bach, dirigé par Raphaël Pichon, et son ensemble le Pygmalion, chœur et orchestre, Christian Merlin.
Je suis conquis. Ah. Et si vous me faites des réserves là-dessus, je me lève et je quitte.
Je vous mords
en claquant la porte. C'est un disque à enjeu, ouais. Double enjeu on pourrait dire, c'est le premier disque que Raphaël Pichon réalise chez Harmonia Mundi, son nouvel éditeur. Jusqu'ici il a toujours enregistré chez Alpha, qui est on va dire un petit éditeur indépendant, extrêmement courageux et qui fait des produits d'une formidable qualité. Et il y a un moment dans une carrière, il faut bien raisonner en ces termes-là, c'est terrible à dire, mais en termes de plan de carrière, où le fait de changer d'éditeur discographique permet de passer un palier supérieur. On peut le regretter et dire c'est dommage. Il avait une vraie confiance.
C'est partout pareil, hein, comme ceux qui passent de chez Minuit à Gallimard.
Exactement.
Quoi, par exemple,
hein. Pour les écrivains, c'est la même chose. Et ça veut dire quelque chose. Et l'autre enjeu, c'est le choix du répertoire. C'est le fait qu'on a là quelqu'un qui très tôt s'est imposé dans Bach, ce qui pendant longtemps, de la part d'un chef français, n'allait pas de soi. On n'associait pas les chefs baroques français au répertoire de Bach. Et Pichon s'y est spécialisé, même s'il sait faire énormément d'autres choses, et notamment les opéras dramaux. Mais avec une intimité extraordinaire avec ce répertoire. Et il y a évidemment la découverte de cette œuvre qu'on ne connaît pas, et pour cause, puisque c'est une pure reconstitution. J'imagine qu'il vous a expliqué tout ça dans l'émission, donc je ne vais pas vous le refaire en 10 minutes. Mais on sait que cette cantate avait été écrite par Bach pour la mort du prince de Köthen, qui était son employeur avant qu'il aille à Leipzig, et qui était quelqu'un qui comptait beaucoup pour lui, qui était le parrain d'un de ses fils, notamment. En faisant des recherches, comme toujours, on a constaté que, en comparant les textes, qu'il y avait de sérieuses parentés avec la Passion. Et donc, on a fait une reconstitution, exactement. Et en mettant d'autres textes, tout simplement, sur des mélodies déjà existantes. Mais ça fait une œuvre qui existe et qui tient la route jusqu'au bout. Il est malin pour ça, Pichon, parce qu'on entend des choses connues. On a l'impression presque d'un Bach qu'on a toujours entendu. Et en même temps, cette combinaison-là, cette constellation-là est nouvelle.
Ouais. Antoine Péqueur.
Alors, je rejoins complètement ce que dit Christian. Il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que quand on regarde les campagnes de communication, on a l'impression de voir Raphaël Pichon en gendre idéal, avec le sourire Colgate, une marinière, voilà quelque chose presque versaillais. Et on écoute son bar et c'est totalement autre chose. C'est vraiment une version avec beaucoup de chair, beaucoup de sensualité qui va très loin. Et il fallait oser, parce que sortir un disque consacré au cantor de Leipzig, chez Harmonia Mundi, où ont été publiés un grand nombre d'enregistrements signés Philippe Hervègue, maître dans cette musique, il fallait oser. Et il propose quelque chose de très différent d'Hervègue. S'ils ont tous les deux en commun, je pense, un même goût pour la rhétorique, Raphaël Pichon va davantage dans une sorte de générosité sonore, que ce soit avec les chanteurs et avec les instrumentistes. Et donc, et on peut que saluer aussi le choix de la distribution, et on retrouve notamment Sabine Devielle. Ils sont ensemble d'ailleurs à la ville et ils forment un très beau tandem musicalement parlant. Bref, vraiment une vision qui rappelle que la musique de Bach, il faut sortir une bonne fois pour toutes de cette vision parfois un peu austère. Et Dieu sait que le texte peut l'être, mais il y a derrière ce texte quelque chose d'une forme de vie, de puissance vitale jubilatoire.
Emmanuel Giuliani.
Bien, moi, je n'ai pas du tout la même impression.
Bon,
je suis désolée. Non, je trouve que... Et j'avais été très, très, très séduite par les messes brèves de Bach. Oui. En effet, ce fameux chez enregistrement, Alpha, oui. L'un des enregistrements chez Alpha. Et là, je trouve que... c'est très bien, on l'a entendu, un excellent chœur, un chœur assez réduit, mais de très jolies voix, de très belles sonorités d'orchestre. Mais je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un peu terne. Juste, vous disiez, c'est pas versaillais. J'ai évidemment rien contre les Versaillais. Dieu sait que la ville est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un peu couvent des oiseaux, pour être dans la caricature.
Ah bon, d'accord.
Je trouve que les solistes, c'est un peu petit. Bon, c'est vrai que Sabine Devielle et la basse, dont j'oublie le nom à ma grande honte,
Christian Himmler,
ont plus d'éloquence, une voix plus unie sur l'ensemble du registre. J'aime beaucoup Damien Guyon, mais il n'y a aucun grave. Et je trouve que c'est très ennuyeux dans les airs qu'il interprète, repris donc de la Saint-Mathieu. Le ténor, je trouve qu'il est également un peu aux abonnés absents. Et il y a quand même énormément de parties solistes. Et puis ce parti pris que l'on sent surtout au début, dans la première partie. Après, c'est vrai que ça prend l'ampleur et la rondeur que Antoine soulignait. Moi, je trouve que les premières plages... Alors, c'est très bien de ne pas vouloir s'engluer et plomber dans trop de legato, trop de vibrato. Mais là, c'est sautillant et moi, je n'adhère pas du tout.
C'est rare d'avoir des points de vue aussi différents.
Non, je peux comprendre. Parce qu'il y a parfois un côté qui peut paraître désincarné dans son souci de transparence des voix, notamment de la polyphonie, et un côté presque chambrisque. C'est vrai que Damien Guillon n'a pas une voix énorme, mais en même temps une telle sensibilité et un tel phrasé.
Moi, j'ai pas eu d'émotion du tout.
Là aussi, je suis absolument conquis. Mais il revendique parfois un côté presque méditatif, contemplatif, qui peut éventuellement passer pour désincarné.
Mais je trouve que c'est tellement assumé. Non, mais moi, par exemple, que je ressens énormément chez une Bernarda Fink, qui pourtant n'a pas une très grande voix, tout de suite, moi, j'ai une chair de poule là, une intensité. Là, je trouve
qu'il est plus en apesanteur. C'est presque à la limite de la lévitation parfois.
Antoine, mais je crois que cette transparence, elle est nécessaire parce que le contrepoint est tellement complexe que pour percevoir ces différentes lignes, on a besoin vraiment d'une vision très claire du discours. Mais pour moi, elle n'est pas du tout sèche, ce discours-là. Elle est analytique, mais elle est également habitée vraiment par une démarche et un discours musical.
Raphaël Pichon et son ensemble Pygmalion, c'est Kuttner Trauer Musik. Voici le titre officiel de ce disque Jean-Sébastien Bach chez Harmonia Mundi. Allez, petite archive. Thank you. Le final du premier concerto pour piano de Serge Prokofiev. Je n'ai pas fait dans la dentelle aujourd'hui, mais non, ce n'est pas tous les jours, non, merci. L'orchestre de la radio bavaroise, dirigé par Yuri Aronovitch en 1974, mais c'est surtout pour le soliste qu'on écoutait cet extrait, Nelson Frère. Voici sous le titre Radio Days, très alénien si l'on veut, une série de deux disques consacrés à des concertos gravés par Nelson Frère entre 1968 et 1979. Ça paraît chez Decca, Christian M.
Ah oui, j'adore ça.
Ouais, que je disais M pour Merlin.
J'ai bien compris.
D'accord,
mais il n'en reste pas moins que j'adore ça quand même. L'autre jour, vous avez passé L'Empereur, le dernier Empereur par Nelson Frère.
Qui avec était Richard la nouveauté pour le coup.
Voilà. Et on avait évoqué le Nelson Frère de maintenant, qui a la réputation d'être un soliste très hypersensible, mais un peu secret, un peu méditatif. Et on a pris soin de rappeler dans cette émission qu'il y avait aussi le lion Nelson Frère. Et que le lion a beaucoup rugi, même s'il a toujours été ce poète et ce chanteur du piano. Et ces enregistrements de radio des années 70, effectivement, viennent nous rappeler qu'il a été un fauve du piano et quelqu'un qui avait un jeu à la fois tout à fait flamboyant, nerveux et en même temps toujours extrêmement phrasé. C'était un artiste absolument complet. Mmh. On entend un troisième de Rachmaninoff réellement éblouissant. On entend un deuxième de Liszt qui va dans des directions... complètement poétique et parfois même chambriste dans Liszt, quand même, il faut le faire. Et en même temps, un tempérament absolument de feu. Donc, c'est une image pour peut-être infléchir, corriger un peu notre image qu'on a de lui. La seule petite chose, c'est qu'il n'est pas toujours aidé par les orchestres et par les chefs. Ce sont des enregistrements de radio. Là, dans le Prokofiev, l'orchestre est un peu poussif par rapport à un soliste qui a envie d'y aller et qui a la vélocité et l'énergie pour y aller. Mais... on l'écoute pour le soliste, finalement, pas pour les orchestres.
Antoine ?
Nelson Frère, c'est un Pernod Vergelès. C'est comme quand on magnifie le Pinot Noir. C'est-à-dire qu'il y a l'arôme, il y a la couleur, c'est jamais lourd. C'est toujours quelque chose d'extrêmement fluide. Il y a, pour moi, quelque chose de remarquable chez Nelson Frère. Et d'emblée, c'est-à-dire que c'est par la sonorité souvent qu'on est séduit, parce qu'il y a cette sonorité dans des nuances très différentes. C'est-à-dire
rien que sur une note parfois.
Rien que sur une note, mais des fortes, mais qui ne vont jamais être ni emphatiques ni métalliques. Et puis des nuances pianissimo, mais d'une ductilité exemplaire. Effectivement, on est très frustré par les orchestres. Moi, c'est vraiment une frustration. Et il y a quelques jours, je l'ai entendu en live à Londres, avec cette fois-ci un orchestre, le LSO, dirigé par Gianandrea Noseda, où là, ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'on a envie, aujourd'hui, heureusement, il peut y avoir des alchimies qui fonctionnent mieux que là, dans ces époques, où on sentait que c'était un peu pour des raisons purement commerciales, que le soliste se retrouvait avec tel orchestre.
Avec un service, et puis
on y va. Voilà, un demi-service parfois, Lionel.
Emmanuel.
Peut-être pour les orchestres, je ferai exception pour le Liszt. Moi, j'ai trouvé que la relation orchestre-pianiste dans le Liszt...
Mais le Liszt, Emmanuel, c'est Eliazar de Carvalho, qui est son compatriote brésilien et un ami.
Et donc là, ça fonctionne très bien. Et Dieu sait que c'est important, ce dialogue. Ben là, je ne vais pas jouer la méchante et la scrogneugneuse et la râleuse, parce que j'ai aussi, même avec toutes les réserves orchestrales que vous avez mises en avant, été très, très séduite. Je pense que c'est vraiment un témoignage magnifique dans des répertoires très différents, puisque on va de Chopin à Prokofiev. Et on retrouve, et à la fois, donc, on admire le fait que la plasticité, l'intelligence et la sensibilité du musicien fassent qu'il est évidemment très différent quand il s'agit de Chopin, de Rachmaninoff, mais on retrouve ces qualités de Nelson Frère que vous avez très bien dites, cette possibilité, cette versatilité en l'espace de quelques microsecondes de changer complètement de climat, un piano de tantôt très percussif, à des moments complètement liquides, perlés, vraiment, on dirait des gouttelettes de rosée. Donc c'est très très beau, et vraiment quand on va l'écouter aujourd'hui, on est content de retrouver la mémoire de ce jeune homme qu'il fut et qu'il peut être encore.
Nelson Frère, donc en ses Radio Days, ses jeunes années, les années 60-70, le disque est paru double disque chez Decca.
France Musique.
Vous écoutez Le Casque et l'Enclume à midi 50. On va passer au coup de cœur, mais il va falloir qu'on soit rapide, les enfants. Antoine Pecker, tiens, pourquoi vous étiez à Londres, là ? Pas pour voir Nelson Frère au départ, si ?
Non. Alors, je faisais dans mon autre vie de bassoniste une belle série avec l'orchestre de l'Âge des Lumières, qui est un orchestre basé à Londres. Ouais. Et j'en ai profité pour aller écouter d'autres orchestres londoniens, et notamment l'orchestre de la BBC. Alors, vous le savez, à Londres, tous les orchestres, à l'exception de l'orchestre de la BBC, sont avec des musiciens payés au projet. Il y a juste l'orchestre de la BBC où les musiciens sont permanents. Et donc, cet orchestre a pu souvent être accusé, dans le milieu musical londonien, d'être un peu l'orchestre de fonctionnaires, l'orchestre avec des musiciens pas assez engagés. Et aujourd'hui, grâce à Zachary Oramo, leur directeur musical, il faut bien se rendre compte que ce n'est plus du tout le cas. C'est un orchestre absolument passionnant parce que Zachary Oramo prend ce qu'il y a de très bon à l'orchestre de la BBC, c'est-à-dire une sécurité, une efficacité. C'est des musiciens qui sont d'ailleurs habitués à la radio, donc qui fonctionnent très bien sur la mise en place. Mais derrière ça, il les emmène très loin. Il ose leur faire prendre des risques. Et ça, c'est très rare avec les musiciens anglais. C'était un programme où il y avait notamment L'Oiseau de Feu de Petrushka, des nuances infimes, des trémolos remarquablement réussis. Et surtout, derrière l'engagement qui est impressionnant de Zachary Oramo, c'est une baguette narrative. Zachary Oramo est un chef qui raconte des histoires. Et on a une allée preuve en début de concert avec un Don Juan de Richard Strauss. On suivait ça comme un très bon film hollywoodien.
Ça fait combien de temps qu'il a été nommé à la BBC
C'est trois ans maintenant qu'il est en poste à l'orchestre de la BBC. Il était avant en poste à l'orchestre de la radio finlandaise. Ouais. Il avait fait un concert d'adieu très émouvant à Helsinki. Il est originaire de Finlande et il fait partie de toute cette génération de très bons chefs finlandais. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, c'est Zachary Oramo qui avait succédé à Simon Rattle à la tête de l'orchestre de Birmingham.
Absolument, vous l'avez fait là aussi un très très beau travail.
Hein. Exactement.
Très bien, c'était le coup de cœur d'Antoine Pecker, celui d'Emmanuel Giuliani. Mais tiens, on va l'entendre d'abord. C'est Marcel Meyer qu'on entendait ici dans la musique de Jean-Philippe Rameau, La Villageoise. Voici deux disques qui paraissent chez Erato, donc Marcel Meyer interprétant Rameau. On connaissait tout ça, ça avait été repris déjà dans l'intégrale,
bien sûr,
Emmanuel Giuliani.
L'année Rameau voilà, a aidé à faire cette réédition voilà, des pièces de Rameau. Alors Marcel Meyer, c'est cette grande dame du piano, qui d'ailleurs, il le répète souvent, il a dû le répéter à loisir à votre antenne, notamment quelqu'un comme Alexandre Barreau,
oui,
c'est
il en parlait hier d'ailleurs.
Pour oser aborder au piano, tout ce répertoire baroque. Moi, je crois que là, on l'a entendu dans cette pièce, La Villageoise, et dans l'ensemble du disque. Tout à l'heure, Antoine faisait des métaphores picturales pour Brahms. Là, Marcel Meyer, elle a vraiment dans cette musique, elle a le charme et l'élégie mélancolique d'un Watteau, elle a l'insolence de Fragonard, elle a la beauté plastique de Boucher. Enfin, il y a vraiment tout.
Non, absolument, je t'ai plus.
On s'arrête là. On va pas parler des petits maîtres, on ne reste qu'au grand. Et donc, c'est vraiment absolument magnifique. Dans la manière dont, tout en faisant un clin d'œil au clavecin, elle est 100%, même 300% pianiste. Il y a un jeu sur les ornements, sur la vélocité des traits, sur les sonorités. Non, c'est vraiment extrêmement beau. C'est vivant de bout en bout. Voilà, on part.
Sensuel aussi.
Voilà. Très, très, à la fois très clair, très limpide, très sensuel, très vivant, très narratif, comme disait Antoine à propos de Zachary Oramo. Non, c'est vraiment, vraiment bluffant.
Marcel Meyer en Jean-Philippe Rameau, deux disque chez Erato. On va refermer cette émission avec vous, Christian Merlin. Et le
oui,
petit
puisque
prince...
vous m'avez coupé le sifflet la semaine dernière.
La semaine dernière, c'est pas moi, c'est l'incendie, c'est vrai. C'était juste.
Ça commençait à brûler.
Ça brûlait de rue, donc du coup, on n'est pas pu aller au bout de Ricardo Muti. Ce sera pour une autre fois. Oui. Mais là, vous allez pouvoir aller au bout de Michael Levinas, quand même.
Oui, c'est une gageure, en fait. Un défi que s'est lancé Michael Levinas d'écrire un opéra sur le petit prince de Saint-Exupéry. Ça ne va pas de soi.
Non.
Le texte est tellement marqué et marquant. Et on a tous des références, évidemment. Et pas seulement le disque de Gérard Philippe, mais notamment. Et il a réussi néanmoins à faire du Levinas. Et c'est ça que j'admire le plus. Son opéra dure 1h15. C'est une bonne durée. Et c'est surtout dans son orchestration qu'il crée un univers sonore. Ça, c'est ça, vraiment sa spécialité. Qui nous permet réellement de voyager à la fois dans l'espace, bien sûr, entre le monde de l'enfance et un monde qui est beaucoup plus sérieux, qui est celui du commentaire presque théologique, et ça, ça lui va bien à Levinas aussi, ça lui va même très bien. Donc, il crée un univers dans lequel on entre. Après, là où on peut éventuellement avoir des réserves, mais ce sont des réserves de fond qui nécessiteraient une émission entière et un débat avec lui, c'est sur l'écriture vocale, ouais. Sur le rapport à la vocalité, comme souvent dans les opéras contemporains. Or, Levinas, depuis quelques années, se passionne pour la mise en musique du texte et sur le rapport au texte, ce qui n'allait pas de soi, car les musiciens issus de sa génération et de son courant de la musique spectrale bannissaient plutôt la voix comme quelque chose de trop incarné. Alors là, on peut trouver que c'est un peu conventionnel parfois. En même temps, dès que les personnages apparaissent, la lumière de réverbère, le renard, etc., on sent chez lui un tel souci de varier l'écriture vocale que c'est assez virtuose et admirable, même si parfois un peu conventionnel. On retrouve Ignol de Péléas, on retrouve L'enfant et les sortilèges, alors que son écriture orchestrale est très personnelle.
Et c'est un opéra pour enfants ou non ?
C'est la question. Il y avait des enfants dans la salle. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait adapté pour eux.
Mais disons, mais vous, ça vous a plu ?
Ah oui, beaucoup. J'ai passé une excellente soirée.
C'est vous, ce petit prince de Michael Levinas ?
Ça se donne actuellement à l'opéra de Lausanne et ça va ensuite voyager. Ça viendra notamment au Châtelet, à l'opéra de Lille. C'est quelque chose qui va tourner.
Et on aura l'occasion de voir et dont on aura l'occasion de reparler. Merci à tous les trois. Cette émission a été préparée par Françoise Montaille, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Alexandre Billard et Charles Barjou.